Et bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Nous enregistrons ce magazine devant l'office de tourisme. Il fait beau, il y a de la circulation, c'est normal, il y a du monde. Vous entendez du bruit derrière parce qu'il y a le festival Let's Doc qui fait ses balances. Mais nous, on va vous emmener plus en profondeur, d'ailleurs, entre parenthèses. Enfin, profondeur n'est peut-être pas le terme. On va vous faire découvrir des choses qui sont qui font partie de notre histoire et avec des dessins notamment qui ont été découverts il y a 100 ans. Je veux parler, bien entendu, des grottes de la grotte de Pêche-Merle, puisque c'est de cela dont nous allons parler. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est le mag. Et notre invité, eh bien, c'est le conservateur de cette... bonjour d'abord Bertrand Delfoy.
Bonjour.
J'ai dit les grottes, mais en fait, il n'y en a qu'une.
Oui, c'est un abus de langage. On dit souvent les grottes, alors en fait, il n'y en a qu'une seule, oui.
Alors, cette grotte de Pêche-Merle, on resitue pour les vacanciers qui sont ici, qui ne connaissent pas, ils viennent pour la première fois dans le Lot. Où est-elle située ?
Alors, elle se trouve sur la commune de Cabreret, au-dessus du petit village de Cabreret. C'est à environ 35 km à l'est de Cahors. Il faut remonter la vallée du Lot et prendre l'embranchement sur la gauche qui permet de remonter un peu la vallée du Célé. Et donc, ça se trouve là... En gros, il faut compter trois quarts d'heure de route depuis Cahors pour venir nous trouver.
Et c'est une grotte préhistorique ?
Oui, alors c'est une grotte préhistorique. C'est une grotte ornée en fait, c'est la bonne appellation. On appelle une grotte ornée une grotte avec des dessins et des dessins qui datent de la préhistoire. Donc la grotte de Pêche-Merle, au départ c'est une grotte géologique qui s'est formée naturellement. Le début du creusement de la grotte remonte à 30-60 millions d'années, ça ne date pas d'hier. Et puis ensuite, les préhistoriques sont venus y faire des dessins et ils ont réalisé sur les parois de la grotte de grands panneaux.
Et c'est quel dessin en fait ? Qu'est-ce qu'ils ont représenté ? Sur quelle surface ?
Alors, il y a plein de choses très différentes. L'essentiel des figures que l'on retrouve, des motifs que l'on retrouve dans la grotte, ce sont des signes. Des signes abstraits, des signes géométriques et en particulier des gros points qu'on appelle des ponctuations. Il y en a énormément. Principalement des ponctuations qui sont rouges, on peut en trouver également des noires. Alors ça, c'est toute la partie qui est la moins facile à lire parce que ce sont des signes abstraits, on ne comprend pas la signification. En revanche, il y a des animaux. Il y a beaucoup d'animaux, environ 70 figures animales. Le premier animal qui est représenté, en plus grand nombre, c'est le mammouth.
D'accord.
Ouais, il y a 26 représentations de mammouths dans la grotte au total. Et puis on retrouve également des bisons, des chevaux, des aurochs, un cerf, un bouquetin. Bref, voilà, c'est toute la faune, tous ces animaux qui vivaient ici, dans la région, à la dernière période glaciaire.
Donc, il y avait des mammouths dans le Lot, alors ?
Il y avait des mammouths dans le Lot, oui.
Est-ce qu'on a pu quantifier l'âge de cette grotte ?
Alors, l'âge de la grotte, oui, d'un point de vue géologique, 30-60 millions d'années, c'est le début du creusement.
D'accord.
Alors, c'est une histoire qui est très longue. C'est une grande grotte. Elle fait plus d'un kilomètre et demi de développement. Il y a énormément de concrétions. Alors ça, c'est une des particularités aussi de Pêche-Merle, d'avoir beaucoup de formations naturelles. Alors concrétions, ce sont les stalactites, les stalagmites, les draperies, les colonnes, etc. Ça fait un décor naturel qui est assez spectaculaire à voir. Et on sait que la grotte n'a pratiquement plus évolué depuis 500 000 ans. En fait, quand on fait la visite de la grotte aujourd'hui, on voit à peu de choses près la grotte telle qu'elle était il y a 500 000 ans. Alors, l'activité géologique se poursuit, mais de manière très ralentie. Il y a toujours les stalactites, les stalagmites qui continuent de se former, mais c'est vraiment très, très ralenti.
Et les dessins, on sait que les habitants, ils étaient depuis combien de temps dans cette grotte ?
Alors, les dessins sont datés en gros d'une période entre 25 et 30 000. 25-30 000 ans, voilà. Alors, une précision par rapport à votre question, les préhistoriques n'ont jamais vécu dans la grotte. Souvent, c'est une idée reçue.
Ah.
Voilà, on pense que les préhistoriques habitaient dans les grottes.
Ouais.
C'est complètement faux. Ils n'ont jamais vécu dans les grottes.
Mais ils s'en servaient pour quoi alors, finalement ? Pour se cacher ?
Ils s'en servaient pour faire des dessins.
C'est tout ?
Oui.
Mais alors, ils habitaient où alors ?
Ils habitaient à l'extérieur. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Quand on va dans la grotte, on le voit d'ailleurs, c'est assez simple à comprendre. Déjà, dans une grotte, il fait noir. C'est l'obscurité tout le temps.
Donc, mais ils avaient découvert le feu à l'époque.
Ils avaient découvert le feu. Mais si on veut habiter dans la grotte, ça veut dire qu'il faut avoir du feu en permanence. Pour avoir du feu, il faut avoir du bois. Donc il faut aller le chercher à l'extérieur et le ramener. On ne peut pas le stocker parce que dans la grotte, il y a énormément d'humidité. Donc du coup, le bois va se gorger d'humidité et du coup, va mal brûler. Donc voilà, ça c'est la première raison. Il y fait noir. Donc si on veut y habiter, il faut avoir toujours de l'éclairage. D'autre part... il y a toujours de l'eau qui s'infiltre à travers la roche, qui tombe depuis les stalactites, qui tombe sur les stalagmites, qui tombe au sol. Au sol, il y a de la terre. L'eau plus de la terre, ça fait de la boue, de la gadoue. Donc habiter dans un endroit où il fait noir et où on a les pieds dans la boue, franchement, c'est pas génial. Et puis la troisième raison, c'est l'humidité ambiante qu'il y a tout le temps dans la grotte. On a à peu près 98-99% d'humidité dans l'air de la cavité. Et ce qui veut dire que tout ce qui est viande, par exemple, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est vêtements fait en peau d'animaux, ben, ça pourrit en quelques jours. Donc ils n'étaient pas fous, les préhistoriques. Ils n'allaient pas habiter dans un endroit où il fait noir, où on a les pieds dans la gadoue et où il y a tout qui moisit. Non, ils habitaient à l'extérieur. Alors c'est vrai qu'on a cette idée reçue parce qu'on a longtemps appelé les hommes préhistoriques les hommes des cavernes.
Ouais.
Eh oui.
Et là, vous m'apprenez quelque chose, par exemple. Vous voyez, j'étais effectivement persuadé que c'était l'endroit où ils vivaient, les grottes.
Eh,
ouais.
Eh non, du tout. Alors éventuellement, ils pouvaient habiter à l'entrée de la grotte. Ça, oui. Mais c'est au niveau du porche. Là où on a l'entrée, qui forme un abri, un toit naturel, mais où il y a la lumière du jour. Donc là, oui, ils pouvaient installer leur campement. Mais ils n'ont jamais vécu dans la grotte.
Mais alors, ils habitaient dans quel... Ils se faisaient des cabanes, des cahutes
Oui. Alors, ils avaient des abris. Hein. On peut, pour faire simple, ils pouvaient se fabriquer facilement des tentes avec des grandes perches en bois, un peu à la manière des tipis des Indiens d'Amérique du Nord. Hein. Mais... On voit un petit peu ce type de construction.
Mais qu'est-ce qui servait de toile? Des peaux de bêtes aussi?
Des peaux d'animaux.
D'accord.
Ouais, des peaux d'animaux, en particulier des peaux de rennes.
D'accord.
Ils chassaient essentiellement le renne à cette époque-là. En fait, le renne, c'était le cochon d'aujourd'hui. On dit maintenant que dans le cochon, tout est bon. À l'époque, c'était dans le renne. Dans le renne, tout est bon. Ils pouvaient exploiter la totalité de l'animal. Alors, ils prélevaient la viande, bien entendu, pour la consommer. La peau, pour se faire l'abri des tentes ou des vêtements. Ils utilisaient également les os, soit pour se fabriquer des outils. Et puis, en les écrasant, ils pouvaient prélever la moelle pour la manger. Ça, c'est très énergétique. C'est bon. Et puis, les os, ça brûle bien également. Donc, on peut le mettre dans le feu et ça alimente le feu. Ça brûle très bien. Ils utilisaient les bois du renne, hein, ces grands bois qui poussaient sur la tête, et ces bois qui servaient également de matière pour faire des outils, des harpons, des pointes de grandes flèches, des aiguilles, etc. Ils utilisaient même les dents pour s'en faire des colliers. Les petites dents qui sont devant, les petites incisives, ils s'en servaient pour en faire des colliers. Donc, en fait, ils chassaient un certain nombre de rennes dont ils avaient besoin, ils exploitaient tout ça, et puis après... Il en restait plus rien.
Mais ils n'étaient pas en sécurité non plus, du coup, quand s'ils sont à l'extérieur de la grotte. Parce qu'on imagine ça aussi. L'homme préhistorique qui se mettait dans une grotte, c'était aussi pour se protéger des bêtes sauvages, de la pluie, etc.
Oui. Ah ben alors, ici dans notre région, dans le Quercy, on a quand même pas mal d'abris naturels qui peuvent être exploités. Tous les pieds de falaise, c'est ce qu'on appelle des abris sous roche. On a la falaise qui est une partie au pied de la falaise qui est un petit peu concave. À cet endroit-là, avec des grandes perches en bois, on pouvait appuyer des perches contre la paroi, recouvrir le tout de peaux d'animaux, et dessous, ça faisait un abri. En plein air, ils pouvaient constituer des tentes. Et le principal outil pour se défendre contre les bêtes sauvages, féroces, qui pouvaient éventuellement attaquer les humains, c'était le feu. Et ça, le feu est domestiqué par l'homme depuis plus de 400 000 ans. Donc c'est le premier outil, la première arme pour se défendre, naturellement, presque, je dirais, des animaux.
Qu'est-ce qu'on a appris dans cette grotte de Pechmel? Parce que j'imagine que quand on découvre une grotte, alors on va revenir dans la manière dont ça a été découvert, mais j'imagine qu'on fait des études, on cherche, on essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'on a découvert finalement qui nous est utile dans la compréhension de notre histoire?
Oh, c'est un sujet vaste. Alors Pechmerle nous donne à voir des dessins. Ces dessins, c'est un vestige de leur culture, en fait. À cette époque-là, il y avait vraisemblablement des croyances, des mythologies, ce genre de choses. Ça, c'est le genre de choses qui pouvaient se raconter au coin du feu, hein, des mythologies, des histoires, des légendes, qui pouvaient se raconter au coin du feu. C'était une tradition orale qui se transmettait. Mais les dessins dans la grotte peuvent être une transcription, en fait, de ces mythologies de l'époque. Et donc, c'est ce qui est passionnant dans l'art préhistorique, c'est que ça nous entrouvre une porte sur la culture immatérielle, en fait, de ces hommes de la préhistoire, c'est une culture qui n'a pas laissé de traces. Alors, les archéologues, quand ils font des fouilles sur un campement préhistorique, etc., on retrouve tous les objets, tous les outils, toutes les armes de chasse que les préhistoriques ont pu fabriquer et utiliser. Donc, on a une bonne idée de la culture matérielle qu'ils pouvaient avoir à cette époque-là. Mais tout ce qui est non matériel, ça reste un mystère. Et justement, l'art nous permet d'entrevoir un petit peu cet aspect-là des choses.
Est-ce qu'on a finalement trouvé des choses qui étaient différentes des autres grottes aux alentours, ou c'était simplement la grotte de Pechmerle, une grotte banale, comme toutes les autres?
Alors non, c'est pas une grotte banale. Déjà, le fait qu'elle ait été investie par les préhistoriques dans lesquels ils sont venus faire des dessins, ça lui donne un statut particulier. Et j'aurais tendance à dire que chaque grotte ornée préhistorique est une grotte unique. Parce qu'on ne retrouve pas deux fois le même dessin. Les parois ne sont pas les mêmes. Ça ne date pas forcément de la même période. Donc on a là un vestige qui a été laissé juste par une culture de la préhistoire et qui nous renseigne sur cette période-là, entre 25 et 30 000 ans. Une particularité de Pêche-Merle, c'est d'avoir des grands dessins, des panneaux qui ont été des figures qui ont été tracées sur les parois de grandes dimensions. Alors la figure la plus célèbre, c'est la peinture des chevaux, ce qu'on appelle les chevaux ponctués. Ce sont deux chevaux qui sont tête bêche et le cheval de droite vient parfaitement s'inscrire dans un contour naturel de la roche qui dessine une tête de cheval. Ça, c'est une pièce qui est exceptionnelle, unique en Europe, d'avoir ce panneau, cette figure de ce cheval dessiné sur une forme naturelle qui représente elle-même une tête de cheval. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Que les visiteurs peuvent voir. Alors,
bien sûr, oui, ça, c'est sur le parcours de visite, effectivement, pour nos visiteurs. Il y a un autre grand panneau que l'on appelle la frise noire. C'est un ensemble de 25 dessins d'animaux tracés au trait noir. Et ça se développe sur 7 mètres de large, sur 2,50 mètres de haut. Tous ces dessins, ces 25 animaux qui sont représentés là, ont été réalisés par un seul dessinateur. Et ce dessinateur, qui a dessiné ça avec un crayon de manganèse, ça lui a demandé à peu près 1h15, 1h30 pour faire l'ensemble de ces figures. Alors ça, c'est l'étude scientifique qui nous a permis d'arriver à cette conclusion-là. Mais c'est quand même assez révélateur de la manière dont les choses ont été réalisées. C'est-à-dire que sur ce panneau, la frise noire, un seul dessinateur a représenté ces 25 animaux, mais pas dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire qu'il y a une organisation qui a été pensée avant de faire la figure. Et c'est tout d'abord un cheval qui a été tracé au milieu de la paroi. Juste à côté de ce cheval, on a deux bisons. Et donc, il y a une sorte de couple qui se forme entre ce cheval et ces deux bisons. Et tout autour de ce couple cheval-bison, il y a une sorte de grande ronde de mammouths. Il y a 11 mammouths qui sont représentés tout autour. Et enfin, il y a un quatrième animal qui vient compléter la scène. Et ça, je vous décris l'ordre chronologique de la réalisation des dessins. Les derniers animaux représentés, ce sont des aurochs. Les aurochs, ce sont des sortes de grands bœufs sauvages. Et ils arrivent par la gauche et ils reviennent vers le cheval du centre. Donc en fait, on a une composition qui a été élaborée, une composition en forme de spirale, en fait, quelque part, et qui doit vraisemblablement raconter quelque chose. Alors, quoi, on n'en sait rien, mais ça doit raconter quelque chose.
Le côté mystérieux, justement, c'est ça qui plaît aussi. Oui. C'est de ne pas savoir encore exactement ce que ça raconte. Donc les études commencent, j'ai envie de dire, ne font que commencer au final.
Oh, les études ont commencé il y a un siècle au moment où ça a été découvert. On a eu une reconnaissance de l'existence de l'art préhistorique au début du XXe siècle. En 1902, il y a un préhistorien de Toulouse, Émile Cardaillac, qui a fait un papier célèbre qui s'appelle « Mea culpa d'un sceptique ». À la fin du XIXe, personne ne croyait à l'existence de dessins qui dataient de l'époque paléolithique.
On pensait que c'était une arnaque.
Oui, il pensait que c'était une arnaque, il pensait que c'était plus récent, il pensait, enfin, que ça ne pouvait pas dater de ces périodes-là. Et puis, les découvertes se faisant, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, et il a constaté qu'il y avait quand même un certain nombre d'arguments qui laissaient dire quand même, ben non, il s'agit vraiment effectivement de dessins préhistoriques. Il a reconnu en 1902, donc effectivement, il s'était trompé, et il reconnaissait l'existence d'un art préhistorique. Et à partir de ce moment-là, le début des études a commencé, en fait. On a commencé à s'interroger, mais pourquoi il y a des dessins dans les grottes? Alors déjà pour savoir ce que ça représente et puis qu'est-ce que ça pouvait signifier et quelles étaient les motivations en fait de ces préhistoriques qui sont venus dans les grottes faire les dessins. Alors il y a eu tout au long du XXe siècle toute une série d'hypothèses, toute une série d'interprétations. Au début on s'est dit oh ben non, les préhistoriques quand ils avaient quelques heures à perdre, ils ne savaient pas quoi faire, bon ils allaient dans les grottes faire des dessins. C'était de l'art pour l'art, c'était juste pour passer du temps quoi. Bon, puis on s'est rendu compte quand même qu'il y avait une certaine structuration dans ces figures, qu'il y avait quand même du détail, qu'il y avait vraiment du travail là-dessus, donc c'était pas simplement juste pour passer du temps. Il y a eu une autre hypothèse qui disait en fait, ils venaient dans la grotte pour dessiner les animaux qu'ils allaient chasser le lendemain. C'était une manière de favoriser la chasse à venir.
De gérer durablement, si je puis dire, la faune, peut-être.
Oh, de gérer peut-être pas, mais disons de faire appel à des forces surnaturelles pour favoriser la chasse du lendemain. D'accord. À une sorte de chasse magique, c'est comme ça qu'on l'a appelé cette interprétation, en se disant, on va faire appel aux forces surnaturelles pour que la chasse du lendemain soit favorisée, que ça se déroule bien. Or, on s'est rendu compte que dans les grottes, il y a du mammouth, des aurochs, des bisons, etc. Et en comparant avec les vestiges archéologiques trouvés dans les campements de la même période, ben en fait, c'est principalement le renne qui est chassé. Or, le renne, finalement, est assez peu présent dans la grotte. Et les préhistoriques n'allaient pas chasser le mammouth, n'allaient pas chasser le bison, ou pas plus que ça. Donc, en fait, il y avait une incohérence. Donc, cette hypothèse-là de l'art magique, finalement, elle est tombée d'elle-même. Et comme ça, tout au long du XXe siècle, il y a toute une série d'hypothèses qui, au fur et à mesure, ont été démontées par différentes études qui ont été réalisées par la suite. Et donc, on procède, en fait, depuis un siècle par élimination. Hein, on a des hypothèses, on les teste, et puis finalement, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, on laisse tomber, puis on essaye de trouver une autre interprétation plausible.
1922, c'est la découverte de la grotte. Vous allez nous expliquer comment ils ont découvert ça. Mais cette grotte, elle est restée finalement combien de temps désertée entre le moment où plus personne ne l'a fréquentée et le moment où elle a été découverte? Est-ce qu'on sait le temps qui s'est écoulé?
Alors, ce que l'on sait aujourd'hui, hein, parce qu'il peut y avoir encore d'autres découvertes qui remettent tout ça en question, l'essentiel des dessins réalisés entre 25 et 30 000 ans. On pense que l'entrée préhistorique de la grotte s'est fermée il y a à peu près 12 000 ans, à la fin de la dernière glaciation. Et à partir de ce moment-là, donc, la grotte a été coupée du monde. Hein, c'est devenu une sorte de capsule temporelle. Aucun humain n'y est rentré. Et ça a été comme ça jusqu'au début du XXe siècle. La découverte donc date de 1922 et c'est la première fois que des humains pénétraient dans cette partie-là de la grotte depuis au moins 12 000 ans.
Mais comment ça puisse conserver tout ça? Les peintures, si c'est soumis à l'humidité, si c'est soumis aux aléas climatiques, comment ça s'est conservé, ces dessins de la grotte de Pechmerle?
Alors ça s'est conservé parce que justement ça a été isolé de l'extérieur.
D'accord.
Et de ce fait-là, on a eu une sorte de microclimat très stable qui s'est maintenu dans la cavité. Alors effectivement, il y a beaucoup d'humidité, mais ça, c'est pas gênant pour les peintures. Éventuellement, ça peut faire un petit peu de dépôt de calcite qui vient recouvrir un peu les parois, mais c'est tout. Donc il y a une température qui est stable, il y a un taux d'hygrométrie, même s'il est élevé, qui est stable, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de ventilation particulière. Donc tout ça crée les conditions d'une très bonne conservation. Et ça, c'est encore une des particularités de Pechmerle par rapport à d'autres grottes, c'est que les dessins sont extrêmement bien conservés, on peut les voir très facilement. Ils sont faciles à lire, faciles à voir.
1922, donc, qui est-ce qui les découvre? Des enfants?
Des enfants.
Dans quel cadre, comme ça? Quelle est l'histoire de cette découverte? Parce que ça se fait toujours par hasard, ce genre de découverte.
Eh oui.
Ils ne cherchaient rien au spécial?
Eh bien là, un petit peu quand même.
Ah, quand même.
Un petit peu quand même. Oui, oui. Ce sont trois adolescents, 13, 15 et 16 ans. Alors en fait, on doit cette découverte surtout à un de ces jeunes, André, de son prénom, David, de son nom de famille. André David, donc, avait entendu parler dans sa famille, et par son père notamment, qu'il y avait sur leur propriété. Alors la famille des David sur Cabroret, c'est une famille de fermiers. Et son père, en 1906, il était en train de couper du bois par là, et puis il est pris par un violent orage. Donc il va se réfugier à l'entrée de cette grotte, en attendant que l'orage passe, que l'averse se termine. Et puis, comme l'orage perdure un petit peu, ça continue, ça dure à peu près une heure. Bon, ben, pour passer le temps, il jette des cailloux. Et puis ces cailloux, il les entend tomber, puis rouler un peu plus bas. Il se dit, oh là là, ce trou-là, apparemment, ça continue, ça descend plus bas. Après cet épisode, il en parle au moment d'une réunion de famille. Et puis il y en a qui disent, oh ben ça peut être intéressant d'aller voir, d'aller explorer un petit peu plus loin. Ce qui sera fait quelques années plus tard. Et on va comme ça voir que cette entrée, effectivement, se poursuit sur quelques dizaines de mètres, mais ça ne va pas plus loin. Alors, bon, à l'occasion de réunions de famille, de repas, ils en parlent. Et puis, il y a des cousins de la famille des David, du village d'à côté, à Tour-de-Fort. En 1912, deux jeunes gens se disent, ah ben, on va quand même aller voir cette grotte d'un petit peu plus près. Et ils y vont, ils s'équipent un peu mieux, avec des bougies, une ficelle qui va leur servir de fil d'Ariane. Et ils vont explorer, ils vont découvrir comme ça deux grandes salles, ce qu'on appelle la salle rouge et la salle blanche, et où il n'y a aucune trace de passage des préhistoriques. C'est uniquement de la géologie, mais c'est quand même un ensemble qui est assez vaste. Alors là, on est en 1912, après il y a la Première Guerre mondiale qui intervient, et le jeune André David, qui a entendu parler de cette grotte, de ses différentes explorations, se dit quand même, là, il y a une grotte, c'est sur le terrain des parents, il faudrait quand même que j'aille voir, et ça me plairait bien de trouver un trésor.
Bah, il va être gâté, hein.
Eh oui, alors... À la fin de la Première Guerre mondiale, en 1919, au village de Cabroret, il y a un curé qui est nommé, qui s'appelle Amédée Lemozy. Et il est nommé parce que c'est un curé, mais qui est également préhistorien. Il a travaillé, il a fait des découvertes déjà du côté de Rocamadour. Et quand il arrive sur la commune, il fait le boulot du curé et il fait le catéchisme. Et chaque semaine, après le catéchisme, il sort ses collections de préhistoire et il les montre aux enfants. En leur disant, les enfants, voici des outils en silex, voici des outils en bois de renne, etc. Si jamais vous trouvez ce genre d'objet par chez vous, ça m'intéresse, ça peut dater de la préhistoire. Et puis si jamais, dans des grottes, vous voyez des dessins, ça m'intéresse aussi, ça peut être éventuellement des dessins qui datent de la préhistoire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait en fait une sensibilisation aux enfants, en leur racontant et en leur montrant ces objets. Est-ce qu'il ne les a pas incités quelque part à aller chercher? En tout cas, André David, vraisemblablement, il l'a pris comme ça. Et du coup, il va se mettre à explorer la grotte de la famille, la grotte David. Il va explorer la salle rouge, la salle blanche. Et puis après plusieurs explorations, en septembre 1922, accompagné par sa petite sœur, Marthe, qui avait 13 ans à l'époque, et puis par un copain à eux, Henri, qui avait 15 ans, ils vont franchir un passage que personne n'avait vu. Un passage qui n'est pas facile à franchir parce qu'il fait 140 mètres de long. C'est ce qu'on appelle le boyau de la découverte. Un boyau un peu étroit à certains endroits. Il a fallu briser des concrétions pour passer à certains endroits. Et là, ils vont déboucher dans la grande galerie préhistorique, là où on a une grande concentration des dessins. Et c'est comme ça que le 4 septembre 1922, les peintures de Pechmerle ont été découvertes.
Ça a dû leur faire drôle.
Oui, ça a dû leur faire drôle, oui.
Je tiens à préciser justement que dans le magazine d'Irlot, je crois c'est mars-avril qui vous étiez consacré à la grotte de Pechmerle, il y a justement le témoignage d'une des descendantes de ce garçon à l'époque qui a découvert...
C'est la fille d'André David qui est encore au village et qui témoigne et qui rapporte les écrits de son père et la mémoire de son père, oui.
Certaines grottes sont dupliquées pour pouvoir les protéger et pour que les visiteurs... Je veux dire par là que les visiteurs ne voient qu'une copie de ces grottes. C'est le cas à Pechmerle ?
Non.
Et comment vous faites alors du coup pour protéger ? Parce que là aussi, c'est encore la situation géographique qui fait que ça pose moins de problèmes ?
Oui, alors c'est un équilibre savant entre l'accueil du public et la préservation des œuvres. Là, on est toujours un petit peu sur le fil, il faut faire très attention et on est très attentif justement à ça. Pour protéger les dessins, on met en place des limitations. On est limité en nombre de visiteurs que l'on peut accueillir chaque jour. On est limité également par groupe de visite. La visite se fait avec 25 personnes maximum. Et puis surtout, on a un temps de visite qui est limité. 3 quarts d'heure à peu près. On doit passer 3 quarts d'heure dans la grotte. Ça s'explique parce que à partir du moment où on descend dans la cavité, on y va, nous, avec notre température du corps, 37 degrés, alors que la grotte, elle, est entre 12 et 13 degrés, 12,5 à peu près. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on descend dans la grotte, on amène de la chaleur, on dégage de la chaleur et on réchauffe un petit peu l'air de la paroi. Et c'est ça le souci, c'est ça le problème, c'est qu'on ne veut pas que l'air de la grotte se réchauffe trop, parce que sinon c'est ça qui peut entraîner une dégradation des dessins.
Donc j'imagine qu'effectivement il faut réserver avant de venir à la grotte de Pechmerle.
C'est systématique.
Systématique aussi.
Toute l'année. Alors il faut savoir que l'été on affiche complet, parfois une semaine ou 10 jours à l'avance. Mais effectivement, pour venir visiter maintenant, il faut systématiquement prendre une réservation en ligne, c'est le plus simple. Comme ça on est sûr de visiter au jour et à l'heure choisie.
Eh bien, Bertrand Delfoy, c'était intéressant. On n'a pas tout parlé, parce qu'il y a encore tellement de choses à dire au final de cette grotte de Pechmerle. Et toute cette histoire ou autre, j'espère que ça a donné envie à ceux qui nous écoutent de venir franchir le pas et de regarder, d'aller voir cette grotte au final.
Oui, effectivement.
Parce que
c'est le plus simple.
C'est une visite qui dure 3 quarts d'heure, on l'a compris, donc oui. Qui est protégée. Et évidemment, il y a quelqu'un qui guide, j'imagine, et qui raconte, vous peut-être, d'autres personnes.
Oui, on a toute une équipe de médiateurs qui montre les dessins, qui présente la grotte, qui raconte un petit peu l'historique. Et puis, il y a également sur place un musée de préhistoire avec exposition et films documentaires.
Le site internet,
oui.
c'est Grotte du Pechmerle,
j'imagine. Non, c'est pechmerle.com, tout simplement.
Voilà. Si vous voulez, réserver. Merci beaucoup, Bertrand Delfoy, conservateur du site de la grotte de Pechmerle. C'était très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir donné envie d'y aller.
Merci à vous.
À bientôt. C'est la fin de ce magazine. Je remercie également l'Office de tourisme qui nous accueille devant et qui a organisé aussi toutes ces entrevues. Pardon pour le bruit, c'est parce qu'il y a du monde aussi également. Il y a un festival, etc. Il y a la rue. Bref, c'est le plaisir d'être parmi vous et on le fera très régulièrement sur CFM. C'est la fin de ce mag. Rediffusion tout à l'heure à 17h et 21h30 et à retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Dans un instant, le journal.